Donc moi, je veux juste remercier d'abord le conseil régional qui a fait des efforts pour que le maximum de personnes puissent être assises ce soir. Et ils ont un peu poussé les murs, donc on les remercie. On remercie l'État, la politique de la ville, en fait tous les partenaires financiers qui nous ont soutenus. Remercie surtout le groupe Perspectives Plurielles. Hein, vous avez un document qui les présente. C'est un groupe informel de personnes qui réfléchissent, qui recherchent et essaient aussi de lier justement tout le fruit de leur réflexion avec de la communication, la transmettre à d'autres. C'est l'un des objets de cette rencontre. Il y a notamment une exposition qui a été réalisée qui s'appelle « Du pluriel dans le féminisme ». Vous en avez aussi une présentation. Et notamment un prochain panneau qui traite du suffragisme. Alors dans ces périodes de mouvements politiques, je pense que c'est toujours des outils à utiliser, parce que je pense qu'il va falloir se réveiller un peu, si je peux me permettre, même si le CIDF est apolitique. Donc si je vous parle du CIDF, c'est parce qu'effectivement le groupe Perspectives Plurielles est partenaire du CIDF. Je dirais presque que c'est le CIDF qui est partenaire du groupe Perspectives Plurielles, parce que c'est elle qui nous entraîne dans des aventures merveilleuses, hein, et qui nous permettent de réfléchir et de changer nos pratiques. Je remercie plus particulièrement Myriam Rambach de Documentaire et Déployé et Véronique Marzeau qui vraiment là ont multiplié les interventions, les efforts pour que tout se passe au mieux. Et notamment cet après-midi, il y avait un atelier tapis volant qui s'est passé à la Maison pour tous Belle de Mai et qui permettait d'échanger sur la diversité des langues et sur toutes les richesses qu'on peut découvrir. Et ça a été un moment très fort, où il y a eu aussi bien une cinquantaine de personnes qui participaient. Donc, très important. Alors, je ne vais pas présenter tout le monde, je vais être brève, mais c'est quand même une action, là, aujourd'hui, qui réunit un collectif très important. Et c'est aussi intéressant de savoir qu'on peut travailler en association, pas simplement chacun dans son coin, mais tous ensemble, pour réunir nos forces. Donc, il y a le CIDF Océan, de fait. Il y a l'Union régionale des CIDF, qui a participé. Ancrage, une association de ressources sur l'histoire des immigrations. Effigie, association féministe universitaire, qui a effectivement mobilisé beaucoup de monde. J'espère que le maximum a pu rentrer. La Ligue des droits de l'homme de Marseille. L'association ASMA, l'association des musulmanes de Marseille. MAD, Madine Bassins, que beaucoup doivent connaître avec le livre qu'ils ont édité, Une cité particulière. On remercie aussi la librairie Transit qui vous propose une sélection de livres en lien avec le thème de ce soir. Et puis, autre partenaire, la Maison pour tous Belle de Mai, qui nous a accueillis, qui a accepté de déplacer tout son mobilier pour nous recevoir. Je m'arrêterai ici. Je précise une seule chose, donc de respecter vraiment les consignes de sécurité. Hein. Pas boire, pas manger, mais je pense que ça ne va pas se présenter. Je précise aussi que toute la séance est filmée. Donc, les personnes qui ne veulent pas apparaître sur le film peuvent encore sortir de la pièce si elles le veulent. On le précise, cela a été affiché. Le film va être diffusé sur le site internet et donc il faut quand même que tout le monde sache que vous pouvez être vu et que nous n'avons pas de réclamation à recevoir puisque nous vous avons prévenu. Je vais passer la parole à Véronique Marzeau.
Bonjour à tous et vraiment je suis très contente de tout le succès et vraiment de la notoriété de Madame Gayatri Spivak. On est très très flattés de recevoir à Marseille aujourd'hui. Je me recule un peu pour ne pas faire de l'ombre, je vous dis tout sur un problème technique important malgré tout. Et donc quelques mots c'est tout puisque je pense que vous connaissez pas mal Madame Gayatri Spivak déjà. Donc elle est philosophe, elle est théoricienne de la littérature. Et elle a le plus haut grade, d'ailleurs, pour une femme de couleur de l'Université des États-Unis. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Columbia. C'est une pionnière des études postcoloniales, mais avec un regard féministe et militant pour les droits de l'homme. En 1976, vous avez traduit Derrida, que vous avez découvert en 1967, et vous êtes une théoricienne de la pensée de la déconstruction. Et vous avez aussi étudié les connexions historiques, culturelles et politiques des romans et des romancières, comme par exemple Charlotte Brontë ou Mahasweta Devi, une écrivaine indienne majeure. À travers ces études, vous nous faites entrer dans la mondialisation à partir du local, du très concret et du côté des oubliés de la société. Vous êtes aussi une militante de l'éducation et vous avez ouvert un réseau d'écoles dans les endroits les plus reculés en Inde. Il y en a 6, je crois, actuellement. En 1988, Vous avez écrit un livre qui a fait avancer la réflexion dans le monde entier, mais qui n'a été traduit en France qu'en 2009 aux éditions Amsterdam, et qui s'appelle « Les subalternes peuvent-elles parler ?» En vous lisant, les textes de la philosophie et de la littérature que vous analysez font écho à notre vie personnelle et professionnelle et ouvrent les portes pour mieux comprendre, hors des catégories académiques, nos propres récits de vie, mais aussi mieux recevoir les leçons de vie de nos voisins sur le trottoir d'à côté. À Marseille, on est à la fois supposé subalterne vis-à-vis des pouvoirs très centralisés de la République française, en fait très parisienne, et de l'élite parisienne, et même celles et ceux d'entre nous issus des classes moyennes. Et en même temps, ces classes moyennes, que ce soit les travailleurs sociaux ou les intellectuels, que nous sommes majoritairement dans cette salle, et même les femmes, nous avons des comportements quelquefois hégémoniques vis-à-vis de beaucoup de personnes des quartiers qu'on appelle prioritaires. C'est une expression administrative pour parler des banlieues où vivent les personnes racisées et inaudibles, absentes des médias et sans représentation politique. Il s'agit à Marseille de quartiers qui représentent 400 000 personnes sur les 900 000 que compte notre ville. Et pourtant, nous sommes sourdes et sourds à leurs revendications, souvent, et parlons en général à leur place. Bref, nous sommes plus complices de ceux qui nous méprisent, pourtant, que de ceux dont notre travail et notre réflexion nous engageraient à nous rapprocher, nos alliés théoriques en somme. L'analyse que vous proposez dans vos recherches nous apporte une grande aide dans ces temps difficiles et fait écho particulièrement à cette situation marseillaise. Aussi, je vous laisse la parole pour nous expliquer comment remédier à tout ça.
Merci beaucoup, Véronique, pour cette introduction, adresse très généreuse. Ça marche? Je remercie aussi Myriam, évidemment, pour avoir m'invité, mais aussi pour pouvoir m'aider avec la traduction, et aussi Pascal, qui est là-dedans, dans les wings. Alors, comment dit-on wings en français?
Dans les coulisses.
Okay, dans les coulisses, ok. Alors, mais je dois aussi remercier mes assistants de recherche, Johan Ripper, qui a traduit ce texte un jour. Il n'avait qu'un jour pour traduire ce texte. Et Peter Van Hove, sans qui je n'aurais pas pu écrire cet article. Alors, ce n'est pas exactement mon texte, parce que c'est traduit. Je ne suis pas du tout trilingue. Je suis à peu près bilingue, anglais-bengali. Alors, c'est l'histoire d'impérialisme. Malheureusement, anglais, c'est aussi une langue très forte, et à partir de cela, je me sens un peu coupable que je ne peux pas vraiment parler français. Je me débrouille, mais je ne parle pas très bien le français. Alors, c'est particulièrement important pour moi, car cet article est pour ma mère, Shivani Chakravorty, décédée en 2003. Le 5 octobre 2013, nous avons commémoré son centenaire. En pensant à la citoyenneté, elle a été un précurseur. Quand elle était enfant, son père l'a encouragée à apprendre la Tikala. Il y a des Bangladeshis ici? Non. Personne ne connaît. Ah, très bien. Non? Parce que c'est une espèce d'appui, avoir quelqu'un dans l'auditoire qui partage la langue maternelle, n'est-ce pas? Allez, ça va. OK. Son père l'a encouragée à apprendre la Tikala, un jeu de matraque défensif et offensif, comparable à l'escrime de Pauline Dash, le révolutionnaire anti-impérialiste de renom. Dans une jeune maturité et avant l'indépendance indienne, elle a été membre du All India Women's Congress. Elle a été une militante intellectuelle, une infatigable et innovante travailleuse sociale, et une source d'inspiration durable pour ma vie éthique et intellectuelle. Elle a, je cite, « pris soin d'une génération pour laquelle elle avait donné des valeurs pour la vie et qui savait quand agir, et elle avait elle-même activement contribué à la formation d'une société qui faisait en sorte que la vie vaut la peine pour tout le monde. Comme le travail de Nayanika Mukherjee, alors ça c'est important parce que tout le monde connaît ici quand the subaltern speak. Comme le travail de Nayanika Mukherjee l'a montré, la première image du subalterne réduit au silence m'est venue à travers l'œuvre de ma mère pour les victimes de guerre-viol au Bangladesh en 1973. Je parle aussi ici de ma mère parce qu'elle avait refusé d'être interpellée, comme par le sex-police, n'est-ce pas, interpellée, « Hey, you !» interpellée comme la matrice passive de la citoyenneté. Donc, elle était en Inde indépendante, elle a travaillé à la formation ou à l'empowerment, comme on dit, des collectivités de femmes qui refusent cette interpellation à la passivité, l'oxymore sur lequel est basée la citoyenneté de genre, c'est-à-dire genrée. C'est un néologisme en anglais, gendered citizenship, citoyenneté genrée. Elle a dirigé le premier foyer de femmes travailleuses à Calcutta. Elle a dirigé un institut de formation et d'enseignement pour les veuves sans ressources. Et elle a été d'une aide majeure dans la mise en place de Charodamort, un couvent éclairé pour les femmes intellectuellement et spirituellement douées afin de s'éloigner des rôles sexuellement fixés dans la société. Au milieu des années 70, mon frère, selon la règle sexo-spécifique qui traverse les cultures et les classes, a fait venir notre mère chez lui comme dépendante. Et ma mère a pris la nationalité américaine. Moi non, mais elle... Oui. Elle a probablement accepté cette interpellation particulière volontairement, pensant ce mouvement culturel comme simplement naturel. Ou plutôt, elle s'est laissée saluer comme la mère de son fils, la grand-mère des enfants de son fils, restituant le rôle indépendant à protéger la façon dont les femmes devraient être saluées, dans lequel elle était engagée à Calcutta. L'écrivaine féministe américaine de classe ouvrière, Tilly Olson, a écrit sur ces négociations dans « Tell me a riddle ». Néanmoins, ma mère a reconnu qu'accepter la citoyenneté, c'est modifier les droits et les devoirs relatifs à une société civile nationale, indépendante ou différente. Parce que cette idée de « Civil Society International », c'est... Et... en continuant à refuser d'être salué ou interpellé comme sexe matriciel seulement, passif, soutenant la vie privée, elle a donné plus de 10 000 heures de sa vie, dans ses 70 puis 80 ans, comme bénévole pour les vétérans de la guerre du Vietnam atteints de syndrome de stress post-traumatique. Elle avait compris l'impossibilité de participer pleinement à deux, voire plusieurs sociétés civiles nationales. Pleinement. Ma mère a été capable de faire tout cela car elle était une femme de la classe moyenne. Ayant obtenu son diplôme de master, qu'elle avait été en mesure de passer parce que son mari, né au village, avait protégé l'intelligence aiguisée de sa jeune femme de 14 ans, ce qui n'était pas une caractéristique de classe à ce moment-là. Elle parlait un bon anglais. Je ne me suis jamais demandé comment, parce qu'évidemment, son éducation était en bengali. Elle n'avait jamais enseigné à l'université, etc. Comment est-ce que c'était... Elle était une personne d'une intelligence, on dirait en anglais, ferocious. Je ne sais pas si ça se dit en français, intelligence féroce, mais c'était comme ça, hein. Elle parlait un bon anglais, je ne me suis jamais demandé comment et quand, au début de ses 70 ans, elle est arrivée aux États-Unis, elle a été protégée par son fils, un médecin avec un emploi américain stable. Alors, par conséquent, lorsque nous parlons de la citoyenneté genrée, dans le cas des migrants, nous devons connaître la situation de classe de la femme ou LGBTI, et la nature du système politique de la ville et de l'État dans lequel elle entre ferait une énorme différence dans sa situation. Aujourd'hui, ces détails sont compliqués par l'augmentation exponentielle de l'exportation de la main-d'œuvre actuelle et espérée. Dans la mondialisation, quand la gouvernance néolibérale, résultat des restructurations économiques, a décimé l'État qui reste encore la base de la citoyenneté. Et si nous parlons de la citoyenneté, nous aurons à considérer que les intérêts personnels légitimes, les protestations, la lutte, doivent être en même temps complétés par les intuitions de la démocratie. C'est alors que nous rencontrons l'énorme double contrainte, en anglais « double bind », chez les critiques du, je dirais, masculinisme, pour ne pas vous provoquer, mais d'habitude je dis masculisme, parce que ce n'est pas féminisme. C'est alors que nous rencontrons l'énorme double contrainte, en anglais « double bind », chez les critiques du masculinisme, « double bond », entre liberté et égalité au cœur de la démocratie qui touche tous les citoyens. La classe dirigeante la résout en ne choisissant d'autres idéaux que l'avancement capitaliste qui soutient le sous-développement au nom du développement. Sustainable development, most of you understand English much better than I speak French. So sustainable development is actually sustainable underdevelopment. OK. Alors, qui soutient le sous-développement au nom du développement dans sa version bienveillante. Je propose ici une définition de base de développement. Développement est l'insertion dans le circuit du capital sans développer le sujet de son usage éthique ou même socialement approprié. I wish I could speak in English and ad lib, but unfortunately I have to read my students' translation. Ou même socialement approprié. Le développement du sujet est apparemment dans l'intérêt du sous-développé. Mais le plus grand modèle est l'intérêt du capital développé, comme cela se clarifiera à partir d'échantillons de programmes de développement durable, sustainable development, comme ils sont enseignés dans l'enseignement supérieur, y compris ma propre université. Si vous suivez la description des cours, des classes, des séances, etc., vous allez voir très, très clairement que vraiment, le grand modèle est l'intérêt du capital développé, investment. La double contrainte entre liberté et égalité peut être comprise de la manière suivante. La liberté est généralement comprise comme autonomie pour moi, ma famille, mon groupe identitaire, etc., quelle qu'en soit la définition. L'égalité est souvent considérée comme traitant tout le monde pareil et l'empêche le pluralisme culturel contre. Que l'égalité soit le développement de l'entendement, une éducation de qualité, que ce soit les mêmes droits et devoirs pour les personnes qui ne rassemblent pas à mon groupe ou à moi-même, cela est ignoré, car le pluralisme culturel, soi-disant, peut cacher le fait de ne pas avoir accès, pas donner l'accès à la possibilité de monter de classe, upward class mobility, ou se déplacer latéralement hors du patriarcat, ce qui dépend parfois de la mobilité sociale. Si cette complication est comprise, nous pouvons simplifier. La liberté, c'est moi, l'égalité, c'est eux. Aujourd'hui, lorsque l'État est seulement un lieu de honte, pour le Human Rights Lobby, name and shame, un lieu de honte, la société civile et les droits de l'homme interviennent pour les opprimer au nom de la liberté, seulement parce qu'ils pratiquent eux-mêmes en apparence l'égalité pour les autres. Cela ne conduit pas ces autres à avoir la possibilité de pratiquer la démocratie quand ils bénéficient des élections, peut-être, ou lorsque leurs enfants sont en mesure de s'intégrer dans une éducation qui, autrement, ne les formerait qu'aux techniques de protection du capitalisme, même quand ils se battent visiblement contre ce dernier. C'est pourquoi, aux occupants de Wall Street, aux acteurs du printemps arabe, et aux variétés de maïdanistes, je dis, en faisant écho, je réponds quand je suis questionnée, en faisant écho à Gramsci, que l'intérêt légitime a détruit l'autre côté corrompu, le capitalisme ou le patriarcat ou l'État, ne conduit pas à la création d'une société paritaire ou politiquement stable, ou à des structures politiques et de genre qui sont à la fois stables et flexibles. Celui qui entend cela est Amin Hussein, de Occupy the Wall Street. Celui qui entend cela est Amin Hussein, un New Yorkais palestinien. Sinon, c'est un message impopulaire. L'horripilante hospitalité de la démocratie continuera d'exiger, tour après tour, que la liberté pour nous, que ce soit les 99% ou les citoyens concernés, ou encore nous, les nationalistes, ne peut pas ignorer l'énorme problème de l'égalité pour les personnes qui ne nous rassemblent pas du tout. Toutes les variétés de lutte sont sous le commandement implacable d'une double contrainte nécessairement ignorée entre liberté et égalité. Ceci est un problème. Comment peut-on prétendre à la citoyenneté sans y avoir accès? Dans un pays étranger, plein de déni que nous voulons pourtant toujours appeler le nôtre. Un soi-disant État démocratique qui retient et refuse l'hospitalité et décide de nous renvoyer vers un chez-soi qui est cruel en termes de classe, de genre, d'ethnie, avec des ressources uniquement pour les gros chats. Cependant, la démocratie est elle-même si terriblement accueillante que les partis et collectivités les moins bienvenus sont techniquement bienvenus si la procédure est respectée. Le développement ne vous enseigne pas comment jouer le capital. Les droits de l'homme ne vous enseignent pas comment jouer la démocratie. J'examinerai certaines de ces questions dans l'heure suivante. Dans les années 1980, quand j'étais active en Algérie, qu'est-ce que voter était la question que je posais aux femmes dans les villages supposés socialistes établis par Ben Bella, le premier président de l'Algérie. Les réponses que j'ai reçues m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de compréhension, que le vote avait quelque chose à voir avec une quelconque sorte de conviction que l'État postcolonial appartient à ses citoyens, femmes et hommes. Je n'ai vu aucune contradiction importante à cela, sauf pour les contradictions de classe habituelles. This is why, now I'm going to say this in English because I don't know how to say it in French, although I have read it in French. Asia Jabbar, in Vaste la prison, addresses Fanon, with whom she worked in Tunisia, right? In an Arabic way, like, Ya France, she says, Oh France, encore une fois, les damnés de la terre, but Algerian against Algerian. So this whole situation of civil war after independence, it is so common. Angola, Mozambique, you go there, you see. So therefore, back now to French. Alors, il n'y avait pas de compréhension que l'État postcolonial appartient à ses citoyens. Alors. Et puis, en 1991, après l'élection du Front islamique du salut, par une procédure démocratique, j'ai également vu la participation massive, somme tout sous-estimée, underreported, des femmes de la classe ouvrière à renverser le gouvernement élu. Le reste, c'est de l'histoire. Depuis 1986, mon implication avec les analphabètes sans terre dans le pays de ma citoyenneté et l'état de ma première langue m'a fait comprendre que cette question, qu'est-ce que c'est voter, devrait être posée comme le présupposé pour le développement d'intuition démocratique et la capacité désintéressée à lutter contre le capital. Ce n'est pas un test. Dans un passage important de la fondement de la métaphysique des mœurs, Immanuel Kant parle de la citoyenneté passive. Je cite, « La faculté de donner son suffrage constitue seule la qualité de citoyen. La faculté de donner son suffrage présuppose l'indépendance de celui qui veut être membre de la République, mais veut aussi en être un membre, c'est-à-dire une partie agissante d'après sa propre volonté en communauté avec les autres. Cette qualité rend nécessaire la distinction entre le citoyen actif et le citoyen passif, quoique l'idée de celui-ci semble en contradiction avec la définition du citoyen en général. Les exemples suivants, écrit Kant, peuvent servir à lever cette difficulté. Le garçon, employé chez un marchand ou un fabricant, le serviteur, le ménage, toutes les femmes, alles Frauenzimmer, Frauenzimmer, that's a slightly different word. I mean, there are many different kinds of words in German for women, but this is the one that Kant uses, alles Frauenzimmer. Toutes les femmes, et en général, tous ceux qui, dans la conservation de leur existence, nourriture et protection, ne dépendent pas de leur propre impulsion, mais des ordres d'un autre, manquent de personnalité civile et n'ont en quelque sorte qu'une existence accidentelle. Fin de citation. En écrivant que toutes les femmes manquaient de personnalité civile, Kant n'était rien d'autre qu'un saint homme de son temps. Cette conviction particulière existe dans le monde aujourd'hui, et pas seulement à l'extérieur de l'Europe et des États-Unis. Notre tâche est de faire que l'existence des femmes, des LGBTI, des esclaves, domestiques et publics, des travailleurs salariés, des femmes comme travailleurs salariés, ceux dont l'existence est toujours inhérente, sans reconnaissance publique, émergent dans l'hégémonie chez Gramsci, selon Gramsci, ou le mainstream, en construisant des infrastructures, alors même que nous nous associons à leur lutte ad hoc en leur nom. Alors, Béatrice, je dirais que cette, votre lutte, c'est-à-dire gender, race, class, ça c'est très important parce que cette idée de manquer la personnalité civile se vient même aux États-Unis, en Europe, etc., si on mélange les trois, n'est-ce pas? Alors, toute recherche sur l'histoire des femmes, d'autre part, doit également être soumise à une critique de symptomaticité historique. Sauf si vous pouvez dire oui à l'ennemi avec votre cœur, vous ne pouvez pas produire de changement réel par un sabotage affirmatif. Il faut vraiment connaître l'ennemi avec cette espèce de rapport éthique pour changer les désirs, pour réarranger le désir d'autres. Ça, c'est une leçon très, très difficile. Quand on a vraiment... Nous l'avons appris dans le cœur d'impérialisme, n'est-ce pas? Comment dire oui deux fois à l'ennemi? Parce qu'il y a aussi des ennemis, des impérialistes qui sont très, très bénévoles, qui arrangent qu'on a un temps assez facile, etc., etc. Mais c'est toujours extremely patronizing. I would like to talk about how my mother's generation used to really resist these extremely benevolent English women who would come to really make their lives happy and womanly and so on and so forth. So, therefore, one must know comment dire oui à l'ennemi pour un sabotage affirmatif. C'est cela l'activisme imaginatif qui vous apprend à pêcher, pas seulement à voler le poisson pour en offrir un peu. C'est pourquoi il est important de garantir les pleins droits de vote pour les sans-papiers. La nécessité politique dont nous parlons est un produit du travail intellectuel. Pourtant, comprendre le droit au travail intellectuel est en soi un produit du travail intellectuel, en haut ainsi qu'en bas. L'idéalisme digital fondé sur la foi dans les médias sociaux le management des connaissances, knowledge management, en haut, et où de dommages cognitifs historiques, en bas, se dressent sur le chemin. Notre travail se déroule au sein de ces contradictions et ces contradictions performatives. Et cependant, éviter cela n'est pas du tout une solution. Je vais vous proposer une règle d'or ici. Les « ceux qui disent bien faire » parlent de l'éducation à l'infini, mais c'est une espèce de jeu, une espèce de « infantilization ». Je le sais très très bien. Les « ceux qui disent bien faire » parlent de l'éducation à l'infini. Vérifiez juste combien s'implique dans la qualité de l'enseignement. Au sérieux, la première étape extrêmement difficile d'obtenir le suffrage ou les lois laïques non absolutistes est un début, pas une fin. L'alphabétisation ou le vote peuvent être contre-productifs s'il n'y a aucun effort à produire la faculté de voter, de donner son suffrage, comme le dit le traducteur français de Kant, donner son suffrage. Traducteur anglais, faculty of voting. Alors, faculté de voter, donner son suffrage. Je le sais, je viens de voter en Inde. Alors, l'élection, c'était absolument tragique, parce que les électeurs étaient complètement convaincus par les médiatiques, orages médiatiques, etc., que cette espèce de personne complètement intégriste hindoue était le roi pour l'Inde. Alors, avoir le suffrage ne vaut pas la peine, vraiment, si on n'a pas essayé de produire un jugement des intuitions de la démocratie avec attention à cette aporie ou double bind entre liberté et égalité. C'est vraiment, on ne joue pas avec les marginalisés, avec the great, largest sector of the electorate, qui n'a aucun droit mais vote. C'est alors, la citoyenneté s'inscrit dans le genre. La citoyenneté réelle dépend de la naissance, inscrite dans le genre. Jusqu'à récemment, la naissance des frères. Comme dans le cas de ma mère, la citoyenneté naturalisée, américaine elle était, naturalisée, produisant les mêmes exigences que la naissance, rendre naturel pour ainsi dire, dépend de la classe, propriété, revenu, emploi. Celle qui donne naissance illégalement sur le territoire métropolitain, les immigrantes pauvres enceintes sont considérées comme l'ennemi, tant et si bien que parler de remaniement des lois générales de la citoyenneté est souvent abordé par le droit. Pourtant, au sein de la citoyenneté, la parité est soumise à l'oppression patriarcale, en bas comme en haut, en particulier si le genre lui-même devient une question de choix flexible. If you want to translate, I'm going to tell a little tiny story. Would one of you like to translate the story? You know, as I'm saying, my mother became an American citizen.
Donc ma mère est devenue citoyenne américaine.
Okay. Now, I just to see, I say to my very benevolent, I won't name them, it's shocking.
Donc je veux dire à des personnes très gentilles que je ne nommerai pas.
I say my mother was American. And one and all will say, that's why you're so tall. That's why you have such broad shoulders, parce qu'ils pensent, même les radicaux et les radicales, que les Américains sont blancs et blanches. Okay. You don't have to translate.
What oui, je crois que c'était, okay. C'était clair.
Absolument. C'est inouï. Hein? So, citizenship, citoyenneté, c'est vraiment mise dans le genre. OK, parmi les subalternes, comme parmi l'élite, un indice pour développer des intuitions démocratiques qui pourraient voyager à travers la structure de classe et les enfants des autres. Une courte définition des subalternes et ceux qui ne peuvent pas accéder aux structures d'aide sociale de l'État, les sans-papiers. Ceux qui ont endommagé sur le plan cognitif depuis des millénaires par l'apartheid social n'ont ni le pouvoir ni le droit et doivent malgré tout voter sans accès aux droits de citoyenneté. Également aujourd'hui, la masse grandissante des subalternisés, les 99%, les maïdanistes. En Estonie, il existe des barrières contre la citoyenneté automatique des enfants d'origine russe, ce qui est apparemment en cours de réexamen. Les intellectuels féministes suggèrent, à juste titre, que l'idée de « enfant des autres » comme appel à la démocratie pourrait être interprétée comme biopolitique libérale. Biopolitique est un nom raffiné, entre autres choses, du contrôle patriarcal de corps genré. Acceptant de prendre mon utilisation de cette expression, enfant des autres, comme formule pour la démocratie jusqu'au sabotage affirmatif, un choix pratique de ceux qui attendraient le secteur le plus large d'un public profondément et depuis longtemps biopolitisé, ayant besoin d'un réarrangement des désirs. You know, I think my English is a lot better than this French that I'm reading. It's really, isn't it? Ça me rend très mélancolique. Allez, pour ceux tout en haut, la biopolitique est l'air qu'ils respirent. Ceux d'en bas sont en dessous du radar. Pour moi, c'est une erreur de départ, un grounding error. Grounding is not just de départ. Pour moi, c'est une erreur de départ, une stratégie, non une théorie, où les lignes ne peuvent pas être séparées. Strategy, theory, error, correct. La théorie n'est que la moitié du chemin, halfway house. Un risque en dehors de la célèbre tour d'ivoire, toujours contesté par la théorisation produite dans le terrain de la pratique. Always normed by practice. Ça, c'est théorisation. Halfway house. Ceci est un exemple de l'argument que j'ai souvent répété, que le genre est notre premier instrument d'abstraction, un instrument d'abstractibilité qui est si vieux que suivre ses traces, c'est développer des moyens d'intimité critique, disons avec le biopolitique, assez différent de la critique rationnelle. Cela fonctionne avant la raison, un modèle que nous avons dans l'apprentissage de la première langue. L'utilisation désinvolte du genre comme instrument d'abstraction commence au tout début de la mise en place de la nature humaine par opposition à la nature en tant que telle. Les débuts de l'humanisme destructif que nous avons appris à appeler l'Anthropocène. En clair, l'origine du changement climatique, la cruauté intégrale du patriarcat capitaliste, la mentalité de forcing de l'avant-gardisme des deux côtés. Le moment de l'abstractibilité du genre est ce qui permet l'accès à l'abstraction. Alors, le genre est medicine as well as poison. It's not a question of just saying, oh, it's always good, because that's romanticizing, that's self-congratulating. C'est ça que j'ai voulu dire ici, en anglais, en tout cas. Le moment de l'abstractibilité du genre est ce qui permet l'accès à l'abstraction. C'est cet instrument ou cette arme qui, au cours des siècles, permettra la rencontre avec l'abstrait en tant que tel, l'émergence du capital au XVIIIe siècle, devenant rapidement un concept métaphore de la testostérone. C'est alors que le thème du leadership des femmes, de l'égalité devant la loi, comme si le récit englobant de la différence sexuelle n'était rien d'autre qu'une abstraction appelée matérialité concrète, sans autre diversité que celle de classe, commence à émerger. Le fait est que le genre, méconnaissable comme moteur principal, est maintenant présenté comme un élément tardif rendu possible par le mouvement de l'histoire. À partir de maintenant, les études de leadership, hommes-femmes ou homosexuels, sont la production d'une avant-garde, quand bien même fragmentée ou particularisée. En revanche, La démocratie doit rester intéressée envers quiconque, n'importe qui. Pas seulement l'avant-garde, vanguard. Avant-garde is not the same thing in French as vanguard. I mean, I don't feel it. Avant-garde has a good side, art, and but vanguardism does not have a good side. Okay, so c'est une grosse erreur que d'identifier le mouvement militant avec toutes les personnes du groupe en question. Antonio Gramsci a tenté de distinguer le subalterne du prolétaire. Réunir le subalterne et le prolétaire, tous les deux considérés comme criblés de préjugés, et Gramsci était après tout dans l'épaisseur des choses, pas seulement écrit des livres, était le dernier fragment d'écriture que Gramsci avait commencé quand il a été arrêté par les fascistes. Ce fragment est déjà nettement différent du type de renforcement positif qu'il, en tant que leader des communistes, avait produit à bon escient, on dit ça ? À bon escient pour le prolétariat de Turin, jusqu'alors, et que nous, bourgeois dirigeants, produisons quand nous menons ou approuvons les luttes. Une espèce de infantilisation. Reconnaissant que la grève générale de 1920 n'avait pas fonctionné, Gramsci regardait maintenant la possibilité de faire des changements à long terme. En prison, Gramsci l'élargit dans une période d'auto-éducation, devant mener à un livre qu'il n'eut pas le temps d'écrire, qui prendrait tout cela en considération. Et dans cette période, il a distingué le subalterne de très près, comme ceci, les groupes sociaux subalternes, gruppi sociali, par définition, ne sont pas unifiés et ne peuvent pas s'unir jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de devenir un État. Dans la conjoncture actuelle, nous devons écrire, créer des interférences mondiales. Pourtant, leur histoire, comme l'écrivait Gramsci en 1934, seulement 14 ans avant la fondation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, est toujours étroitement liée à celle de l'histoire des États et groupes d'États, comme nous, qui travaillons à la citoyenneté pour les sans-papiers, connaissons que trop bien. C'est toujours les mécanismes de l'État. Ce n'est pas une question de International Civil Society. Ça n'existe pas. Une société, International Civil Society, c'est une espèce de améliorer le fait qu'avant c'était non-governmental. Et non-governmental, c'est négatif. Alors, à l'école, on a appris que tout ce qui n'est pas government, c'est civil society. Disons civil society, c'est positif. C'est un jeu. Et tel est l'électorat potentiel, hommes et femmes, avec lesquels nous devons nous poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que voter ? Nous devons apprendre à considérer la capacité chez nous, Inde, Chine, Bangladesh, Nigeria, sans faire de distinction entre les nations barbares et civilisées. Kathleen Collins a récemment trouvé, en expliquant les politiques, de clans excentriques dans certains endroits et pas dans d'autres, que ces politiques ont été déterminées par l'écart entre la création de l'État absolutiste et la structure formelle, au moins, de la démocratie. Dans cet argument, nous pouvons également placer l'État colonial sans accès direct à l'agence du pouvoir en haut et bien sûr l'État totalitaire. En 1983, avant que je ne commence mon voyage à apprendre des subalternes comment les insérer dans le circuit de l'hégémonie, dans une optique nécessairement restreinte, j'ai écrit « Les subalternes peuvent-elles parler ?» où le seul accès que j'avais au groupe social était celui des femmes. C'est mon article le plus connu, rien de plus ou rien de moins qu'une décision ignorante à faire sortir. C'est une critique du culturalisme. C'est à partir de ce point de départ que j'ai appris, au cours des 30 années qui ont suivi, tout en continuant le reste, que les enfants des autres est un bon moyen pour l'enseignement intériorisé des intuitions démocratiques chez les adultes à travers ces classes, depuis la subalternité jusqu'à l'accès et même l'agence à la biopolitique libérale. Me voici de retour à la démocratie. Le mot signifie à peu près, comme vous le savez très bien, pouvoir au peuple. Et il est divisé par la double contrainte, comme je l'ai déjà dit, entre liberté et égalité, entre eux et nous. Nous qui sommes toujours les personnes à qui le pouvoir doit venir. I've marched enough in demonstrations saying, you know, the people united will never be defeated and so on. Always power to us. The people is us, not others. C'est le contrainte entre liberté et égalité. Si nous acceptons cela pour le moment, comment est-ce que les enfants des autres pourraient s'atteler à développer les intuitions démocratiques parmi l'élite? Le truisme heuroséquentiel trivial, le temps passe du prémoderne au moderne à travers le colonialisme jusqu'à la mondialité, pimenté maintenant par culture comme inventée par l'anthropologie et maintenant édulcorée par l'UNESCO et les documents de Nara de 1994, qui dirige le monde, peut être revisé, nous donnant l'agence de complicité. Nous aurons besoin de penser la complicité dans son sens primordial. Dans l'affiche, on dit « nous sommes pliés comme femmes, en tant que femmes ». Alors, je l'ai remanié un peu. J'espère que ça, c'est ici. Oui, non. Si je ne le trouve pas, alors je dirais même la même chose que j'ai déjà dit, c'est-à-dire il faut être... Ah, c'est ça, voilà. Nous sommes prises dans le même pli en tant que femmes. Prises aussi dans le même pli complicité avec tout ce que nous opposons. Notre pratique serait plus forte si nous acceptions cette contingence périlleuse et incalculable. Ce n'est pas seulement mon groupe, mon identité. Ce n'est pas seulement en tant que femme. La démocratie, cette hospitalité, c'est aussi pour les autres qui ne nous ressemblent pas. Ça, c'est la double contrainte. Alors, nous aurons besoin de penser la complicité dans son sens primordial, comme étant historiquement et idéologiquement prise dans le même pli. Même avec des biopolitiques, alors que nous planifions pour nos propres enfants, même avec le capitalisme, alors que nous voulons aller de l'avant, ou au moins que nos enfants aillent de l'avant, plutôt que dans le sens courant de complot ou de collaboration, complicité comme quelque chose un peu suspicious. Sans ce genre de formation générale et personnalisée de l'imagination, il est impossible de se rappeler que, pour mesurer les sociétés en général, bien que nous ayons besoin des États-nations, des régions et autres catégories pour la quantification, ceci ne nous donne pas un sentiment de développement au sens riche, sans jeu de mots. Je partage, in English I said with pun intended, he's translated exactly wrong, development in the rich sense, pun intended. Ok, oui, sans jeu de mots. Je partage avec vous ma conviction que le sous-développement durable, sustainable underdevelopment, est la règle et la notion intraitable particulièrement de développement, étudiable à travers les indices quantifiables dont les articles sont quantifiablement extensibles, ne sont pas les mêmes que les changements dans la façon dont nous connaissons le monde. Jetons un œil à un paragraphe du rapport sur le développement humain, Human Development Index, de 2013, et notons comment la quantification est sa seule valeur. J'ai déjà utilisé cet exemple par le passé et n'ai pas pour intention de cesser de l'utiliser. C'est un beautiful example. Sa solidité, que Mahbub ul-Haq a correctement recommandé, c'est la personne qui a pensé à Human Development Index, n'est-ce pas, en ajoutant life expectancy et l'éducation, qui est très très important. Sa solidité produit une âme puissante, mais montre aussi qu'il est étroitement pris dans les plis des idées générales du développement, que j'ai appelé sous-développement durable, reflété dans de nouveaux ensembles de tableaux. Alors, vous gardez ce tableau, c'est page 7. Ce tableau, c'est beaucoup plus émouvant quand on peut le placer sur l'écran. parce que c'est en couleur. Très, 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 très impressionnant. OK. Liste pays par RNB, tableau de avancement. Those of you who know Fanon will know that this is exactly what Fanon criticizes very foncièrement. So, you want to say?
Ceux d'entre vous qui connaissent Fanon sauront que c'est exactement cela que critique Fanon.
This kind of comparison. This kind of...
Ce type de comparaison.
Trying to catch up with the United States and China and Germany and France and so on. He's written a good deal about that. Okay, now. Actuellement, il y a tellement peu de compréhension de la valeur de l'éducation qualitative dans la production et le maintien d'un électorat que ces remarques absurdes sont faites dès l'indice 2013 en toute innocence. Je cite le rapport. Il est difficile d'utiliser l'idée H pour suivre les changements du développement humain sur le court terme, car deux de ses composantes, à savoir l'espérance de vie et la moyenne d'années de scolarité des adultes, évoluent lentement. C'est-à-dire, les deux choses qui étaient introduites pour changer l'index, les statisticiens qui maintenant conduisent l'index, alors c'était pendant les années 90 que l'index a commencé. Ils comptent que c'est une tradition. 90, hein, cette tradition, on doit vraiment avoid, éviter les... one can say that? Éviter all, right? Éviter les contraintes de too slow education et construire quelque chose. Et alors, l'adjectif traditionnel, ce n'est pas bon. Alors, la tradition a commencé années 90. Alors, pour contourner cette limitation, les composantes les plus sensibles au changement à court terme pourraient être incluses dans l'IDH national. Par exemple, le taux de chômage, le pourcentage de la population ayant accès aux services de santé ou le pourcentage de l'apport calorique quotidien par rapport à l'apport recommandé pourraient être utilisés à la place des indicateurs traditionnels de l'IDH. Ainsi, l'utilité et la polyvalence de l'IDH en tant qu'outil analytique pour le développement humain au niveau national et sous-national serait améliorée. C'est objectifiant les gens. Et alors, nous aurons un index qui sera beaucoup mieux. Au niveau national et sous-national serait amélioré si les pays choisissaient des composantes davantage sensibles à leur niveau de développement spécifique et reflétant plus précisément leurs priorités et problèmes, plutôt que d'utiliser de façon rigide les trois composantes présentées dans l'IDH au niveau des rapports mondiaux. Fin de citation. Selon cette conclusion sur le rapport de l'indice de développement humain de 2013, la montée du Sud, « The Rise of the South », l'éducation, la cheville ouvrière du développement humain, n'est pas utile pour l'analyse du développement humain, car elle bouge trop lentement. Aucun outil analytique dévoué à la rapidité comme mesure de l'efficacité ne peut effectivement avoir une emprise sur le développement humain réel et certainement pas le processus de développement comme dans sociétés en développement, « developing societies ». Comme pour les mesureurs de développement humain, leur seule norme, je cite, quand on ajuste l'IDH pour tenir compte de préoccupations supplémentaires, ne peut être que pour un engagement à l'intégrité des données et une attention rigoureuse aux protocoles statistiques. Non pour une idée existentiellement riche de développement qui pourrait montrer les limites de leur pouvoir et la demande de supplémentation pour produire des mentalités égales à la tâche à accomplir. Aussi soigneusement aiguisé que l'indice puisse être, il ne touche pas à la qualité de l'éducation. Et c'est ce que produit l'apartheid de classe, la culture du viol et la culture de corruption, forçant les résultats des élections par la voie de la violence et, au mieux, la violence comme seul recours à une sorte de justice sociale sauvage. Quand d'autre part, tous ces gens merveilleux qui préparent ces rapports, alors le deuxième tableau, hein, c'est-à-dire page 7, vous voyez, les gens qui ont préparé le rapport, the team. Quand d'autre part, tous ces gens merveilleux qui préparent ces rapports envoient leurs enfants à l'école, les considérations de qualité deviennent primordiales. Un exemple, encore une fois, du sous-développement durable, et même alors trop lent pour être utile. Il ne peut y avoir de développement jusqu'à ce que l'indice soit complété par un esprit d'égalité. Voici, c'est un exemple de ce double contrainte, liberté-égalité. Les enfants des autres est une intuition démocratique qui se déplace à travers la classe, comme je le constate, tous les jours dans mes écoles rurales. De telles idées sont peu pratiques, mais étant donné que la démocratie est le développement du jugement abstrait pour le bien de tous, et c'est très facile de parler contre l'abstraction et lutter pour le concret, mais si vous êtes étroitement lié avec l'éducation, les gens qui millénairement ont are denied entrance into the capacity to make abstractions, cela serait une espèce de jeu des élites. This idea that the abstract is too bad, we must be concrete. Concrete is itself an abstraction. Mais étant donné que la démocratie est le développement du jugement abstrait pour le bien de tous, y compris les personnes ayant des intérêts différents, qui doivent eux-mêmes être formés par le jugement abstrait, il n'y a pas moyen de contourner cela. La démocratie accepte en son sein l'élément de l'incalculable, car il doit rester hospitalier, en théorie, aux positions les plus extrêmes, si géré par une simple raison. C'est seulement avec l'électorat qui a compris le droit au travail intellectuel, qui a compris le droit, et pas seulement l'information, que le sous-développement durable peut être interrogé et combattu par le processus politique, qu'un plus grand développement du genre peut peut-être être revendiqué, et le flux continu de développement peut ne pas être, on l'espère, un état de l'opposition nourri de façon destructrice par la gauche féodale, militant de la classe moyenne éduquée, comme alternative pendant que, de l'autre côté, c'est un état du déplacement de ceux que l'on appelait avant l'idéologie petite bourgeoise, l'implication de plus en plus de personnes statistiquement dénombrables dans la gestion du sous-développement comme développement. This is a hopeless sentence, but I know what I'm saying. Now, this militant de la classe moyenne éduquée, la gauche féodale, hein, what I'm really talking about is ce qui est décrit comme maoïsme dans mon pays. Hein? Ce sont des subalternes qui meurent. Et ce sont des rational choice leftists de classe moyenne qui disent que c'est du maoïsme. C'est une tragédie intégrale. Je le répète, c'est pourquoi tous doivent lutter pour les droits de pleine citoyenneté, pour les sans-papiers ici et les électeurs subalternes chez nous. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. W.E.B. Du Bois a donné un récit magistral d'un tel processus avec le suffrage, Negro suffrage, tel processus comme le développement de ce qu'on appelle la démocratie aux États-Unis dans son Black Reconstruction 1860-1880. Il est regrettable que nous nous arrêtions avec Tocqueville, sans doute parce que Du Bois est considéré comme appartenant à l'intérêt afro-américain seulement. La traduction complètement acceptée du mot « démocratie » dans ma langue maternelle et en réalité, supposément dans la langue nationale de l'Inde, « Ganatantra » ou bien « Ganatantra », ma langue maternelle, que mes collègues et la plupart des instituteurs masculins dans la région rurale où j'ai mes petites écoles connaissent bien, leur donne peu d'indices quant à son sens possible. Ils votent, bien sûr, s'ils ne sont pas terrorisés de ne pas voter. Comme je l'ai dit à maintes reprises, leur analyse intelligente est que le vote est comme un sport de compétition. Qui gagne, gagne. Mais n'est-ce pas le même jeu tout en haut des démocraties de la planète, qui gagne? C'est aussi pourquoi ce qu'on appelle le pluralisme ou la suppression de l'égalité, mal comprise comme similitude, pour les dissemblables, autres, ne doit pas être établi seulement dans le juridico-légal, bien que les lois doivent être établies. Les lois restent de plus en plus des instruments moins efficaces que les instruments de force aux mains de fonctionnaires, enforcement, law enforcement, instruments de force, je ne sais pas si ça marche. Les instruments de force aux mains de fonctionnaires non préparés mentalement ou détenteurs de positions jusqu'à ce que les efforts persistants à une éducation de qualité, formation épistémologique qui permet aux lois d'être construites comme des objets de volonté, plutôt que l'éducation comme seul moyen d'employabilité, ne puisse être sérieusement entreprise. Même si, en tant qu'électrice, je pouvais me soumettre à l'arithmétique, je devrais me soumettre à l'arithmétique implacable d'une démocratie propre, one vote, incapable de renverser la marée induite par des milliards d'électeurs épistémologiquement formés dans l'identitarisme, par le discours hyperriel de la participation résiduelle pratiquée par les leaders de mon propre pays. J'ai essayé, à ma façon discrète, de produire un tel changement épistémologique profond depuis maintenant 30 ans. Cet effort étant contre une longue historique durée, structures persistantes comme le patriarcat ou le système de caste qui hante encore le système politique, que je ne suis pas, pour citer le marque-page dans mon exemplaire de Bakounine, contrairement au prospère maître de business et de vie, c'est le marque-page maître de business et de vie, je ne suis pas, je cite, efficace, ciblé, productif et pratique. Qui gagne perd là, cette espèce de jouer avec les subalternes. Qui gagne perd. Quand je suis appelée à m'exprimer sur des questions de justice sociale dans le monde extérieur, comme ici, je rends compte de ce que j'ai appris de mes propres erreurs de mon travail pendant les 30 dernières années. Par exemple, dans le discours d'ouverture à l'Université d'Utrecht, pour le 300e anniversaire du traité d'Utrecht. Avant de m'y rendre, j'ai en fait partagé cela en bengali avec mes superviseurs et enseignantes subalternes. Vous voyez, leur ai-je dit, ce dont nous parlons et ce que je vais dire là-bas. Puis j'ai essayé d'expliquer ce que l'auto-représentation culturelle du traité d'Utrecht était aux Pays-Bas. C'est une autre histoire. En conséquence, parce que je le dis aux adultes, mes collègues de travail, à propos de l'auto-représentation culturelle, évidemment je ne le dis pas aux enfants, les élèves, aux adultes, mes collègues de travail, à propos de l'auto-représentation culturelle qui leur est offerte par plusieurs types de parties, par la religion, par le culturalisme, par les ONG, et ainsi de suite. J'en parle à la suite de notre association et au moins, ils ont un sens de la carte géographique. Puis, je leur ai lu les phrases en anglais que je vais lire maintenant dans le français de Johan Ripert. Ils ne comprennent pas cette phrase, mais je leur dis, regardez, c'est la même phrase, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai dit la même phrase au Centre pour l'étude des sociétés en développement à New Delhi, la capitale. C'est une autre visite. Tout le discours pour la deuxième fois, j'allais présenter la sagesse que j'avais reçue d'eux et qu'en raison de crimes cognitifs historiques, je n'étais pas encore prête à agir après 30 ans. Il faut se rendre compte qui gagne perd. Nous savons comment jouer avec les subalternes comme si ils étaient, ils et elles, des enfants. Et nous sommes très contents. Hein? Nous avons fait quelque chose. Alors ça, vraiment, ça me fait pleurer. Mais laissez-moi en arriver à Utrecht. Gardez à l'esprit qu'Israël est décrit sans arrêt comme la seule démocratie au Moyen-Orient, même s'il joue le jeu des représailles énergiquement. La démocratie est maintenant assimilée à une structure civile d'exploitation, le fonctionnement d'une bureaucratie hiérarchisée et des élections propres. Nous avons beaucoup d'exemples à travers le monde montrant que l'implacable violence était sur le modèle de la vengeance et de représailles pour coexister avec la dite démocratie. La vengeance est sans doute une sorte de justice sauvage qui prouve qu'aucune rétribution n'est juste avec le dommage. Cela n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la vision de la justice sociale. Et voici ce que j'ai dit d'abord en bengali, comme une leçon apprise par mon travail avec eux, à mes collègues subalternes. Ni de tous les enfants et donc de la capacité de tous les gens à utiliser le droit au travail intellectuel. Coupé en haut à cause de l'idéalisme digital, coupé en bas en raison des dommages cognitifs millénaires. La compréhension du droit au travail intellectuel, non pas seulement la facilité et rapidité d'apprentissage, ni simplement acceptez-nous et donnez-nous un emploi, bien que cela aussi. Il y a bien des années, dont les subalternes peuvent-elles parler, juste avant que le réel travail a essayé d'apprendre des subalternes des leçons qui sont tout juste en train de faire surface et commencer, j'avais parlé du fait que la représentation a au moins deux significations, comme dans un portrait et comme dans un proxy. Je vous donne deux exemples, et c'est le mouvement final. Tout d'abord, de Niamgiri. C'est un endroit à Odisha où la Cour suprême de l'Inde a demandé aux tribus locales de témoigner contre Vedanta Resources Incorporated, une société mondiale dans l'exploitation minière de métaux diversifiés dont le siège est à Londres, la plus grande société minière de métaux non ferreux en Inde, avec des exploitations minières en Australie et en Zambie, cotées à la bourse de London et à l'indice FTSE 100. Les tribus ont témoigné avec succès. Évidemment, même les militants dévoués de la classe moyenne voient la Cour suprême comme état de droit, le groupe Vedanta comme méchant moderne et les tribus comme tradition. En fait, Niyam, comme dans Niyamgiri, le nom de cette région, Niyam, signifie la loi. Et le soi-disant dieu des tribus Niyamgiri n'est pas un dieu du tout, mais un raja ou roi. Ce Niyam Raja donne la loi pour protéger les rivières et les montagnes. Une critique préemptive de l'Anthropocène. Je ne le romantise pas. It's what one does with that. Is something I can't talk about now because there's no time. Donne la loi pour protéger les rivières et les montagnes, une critique préemptive de l'Anthropocène. L'activisme imaginaire va essayer de réorganiser son désir, de l'aider à la protection de la tradition contre la modernité d'en haut, apprendre à revendiquer la complicité avec cette modernité. Complicité avec cette modernité. De la part des tribus, dans la modialité simultanée avec toutes les autres modernités. Le sens de modernisation doit être changé dans la mondialisation parce que c'est simultané. Nous sommes tout modernes. Les diachronies sont différentes, mais la synchronie, c'est moderne. C'est une modernité et nous devrions apprendre comment reconnaître cette modernité. Deuxièmement, Bidi, comme dans la chanson subalterne, en bengali créole, Mon kore ulibatare, Bidi da enapaka. L'esprit fait comme s'il volait, Bidi ne donne pas d'aile. Ici, Bidi est l'intuition transcendantale de la règle de l'état de droit, auquel l'élitisme romantique ne peut pas accéder. L'activisme imaginaire va essayer de réorganiser son désir d'aider d'en haut afin de réclamer la complicité avec cela. Mon kore uri bartare bidhi dai na pakha, c'est la chanson qui est subalterne quand j'ai discuté. La citoyenneté genrée doit être assurée avec la citoyenneté de classe et de citoyenneté raciale et doit rendre visible comme théorème. Make visible, théorème, ça c'est la signification. Cette théorie n'est pas seulement abstraite. Theorizing, l'activité de faire de la théorie, c'est de rendre visible. La citoyenneté générale doit être assurée avec la citoyenneté de classe et la citoyenneté raciale et doit rendre visible l'absurdité de la citoyenneté mondiale, global citizenship, où chaque décision d'une intervention militaire ainsi que toutes les décisions de développement est prise État-nation par État-nation. Lorsque nous utilisons des expressions comme un membre de la société dans le monde aujourd'hui, les idéologues de la classe moyenne pensent à eux-mêmes. J'ai déjà développé ce point. Ici, je dis différemment que si nous pensons aux exemples que j'ai donnés ci-dessus comme simple culture, Nyomgiri et Bidi, il n'y a pas de démocratie dans la sphère culturelle, seulement une alternative entre la tolérance et l'incalculable. Nous devons exécuter et laisser les autres avoir le droit d'exécuter le jugement sur la traditionnelle, européen ou non. Les subalternes peuvent-elles parler était vraiment une critique de base de l'hindouisme et de son utilisation par l'impérialiste bienveillant. Ce n'était pas du tout un texte postcolonial, c'était un texte précolonial. En solidarité, nous devons réorganiser et non détruire l'énorme désir venant des féministes en Europe et le nord du sud d'être actifs dans le monde entier, une espèce de ménagerie, n'est-ce pas? Pour citer une voix puissante, les comparaisons, c'est une féministe dominante, les comparaisons à grande échelle peuvent servir de point de référence pour des études plus détaillées. Mais les comparaisons sont toujours politiques. Qui a le droit pour faire des comparaisons de tout le monde comme ça, hein? Mais les comparaisons sont toujours politiques. Nous sommes très reconnaissants du travail généralisable important accompli par le féminisme électronique. Mais la culture n'est pas généralisable. Le subalterne n'est pas généralisable. On peut apprendre la langue, on ne peut pas apprendre la culture. Et si c'est par cela que la mondialisation n'est pas... C'est seulement... I'm going to quote, you can translate a sentence from my book. Only capital and data globalize. Everything else is damage control.
Seul le capital et les données organisent. Tout le reste n'est qu'un dommage contrôlé.
It's not organize, it's globalize.
Mondialise.
Okay. So, whatever. So, therefore, let's go back. En solidarité, nous devons réorganiser et non détruire l'énorme désir venant des féministes en Europe et le nord au sud d'être actifs dans le monde entier. Pour citer une voix puissante, les comparaisons à grande échelle peuvent servir de point de référence pour des études plus détaillées. Mais les comparaisons sont toujours politiques. Nous sommes très reconnaissants du travail généralisable important accompli par le féminisme électronique. Mais la culture n'est pas généralisable. Le subalterne n'est pas généralisable. Notre type de travail est le long travail de reconnaissance de l'historicité du désir. Le changement est nécessaire, réorganiser les désirs à ces deux extrémités. Ici, je vous offre mon travail parce que je suis bien engagée aux deux extrémités. Parce qu'à Columbia, je n'enseigne pas South Asia, je n'enseigne pas Indologie. J'enseigne leur dominance, hein, littérature anglaise, française, allemande, à Columbia. Et à mes villages, ce sont des écoles élémentaires pour faire entrer dans le mainstream. Alors, c'est Il n'y a pas de patronization. Either there, love me, I'm Indian, or Colombia, or you're so nice, come on, let me hug you. No, in neither place. So, dans les 30 années, au cours desquelles j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai entendu parler de meurtres de sorcières, mais n'en ai jamais vu un seul. Je n'ai pas vu de décès lié à la dot. Dot. Bien que les mariages d'adolescentes sont la règle plutôt que l'exception, et la dot est généralement payée. And again, I can't talk to you about what I do about it. Les histoires d'intérêt humain ne sont pas typiques de leur géographie. Imaginez combien vous seriez horrifiés si les gens disaient que les néo-nazis et Action française étaient typiques de la France. J'essaye d'utiliser ce qui est là, plutôt que d'excuser ou accuser, ou de simplement résoudre les problèmes de haut en bas. Mon rêve est que ce travail puisse conduire à une pratique post-théorique. Ceci est bien sûr un déni de l'histoire, et je pense cela comme un rêve, devant être défait par le futur inconnu, le futur antérieur. Je vous l'offre dans toute sa vulnérabilité à cause de mon immense respect pour le mouvement des femmes en Europe, se battant contre une collection d'États débiteurs et créditeurs se faisant passer pour une union. Le genre est notre premier instrument d'abstraction. La psychanalyse ne nous donne pas de description de ce qui se passe vraiment. Il est donc très important qu'un penseur psychanalytique imaginatif pense la construction de la possibilité de la pensée même comme provenant, c'est comme la poésie. Et la poésie m'intéresse beaucoup parce que je suis une critique littéraire. Hein? Alors, il est donc très important qu'un penseur psychanalytique imaginatif pense la construction de la possibilité de la pensée même comme provenant d'un échec du, je cite, très anatomique d'une marge ou d'un bord. Le lèvre, enclos des dents, marge de l'anus, sillon pénien, vagin, fente palpébrale, voie cornée de l'oreille, hétérogénéité respiratoire, entre en jeu par des spasmes. En d'autres termes, penser la frontière de façon genrée, la cheville ouvrière du féminisme mondialiste, la ressource de se battre pour la citoyenneté, pour l'inclusion dans des frontières, est un constituant indécis et primaire de notre perception de la réalité elle-même, où la raison est façonnée à partir de ceux qui la précèdent. Continuons donc à travailler pour qu'en haut, tout comme en bas, pris dans le même pli du genre, puisse venir de génération en génération l'ouverture à votre rêve. Je vous remercie.